Moi, je garde toujours, même après avoir importé sur l'ordinateur, que ce soit dans Final Cut ou que ce soit dans Lightroom, je garde toujours ma carte pleine. Sauf si j'ai contrat tout de suite derrière. Je la garde comme ça me fait un double backup. Donc après l'importation sur Final Cut ou sur Lightroom. Donc ça, je le garde toujours sur le côté, au cas où, parce que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois que l'importation s'est mal faite, ça s'est mal passé, etc. Ben, je les ai toujours sur ma carte.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout premier épisode du podcast de l'année 2024 de Dans la Poche. Bonne et heureuse année à tout le monde, à tous ceux qui nous suivent. On est très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle édition de l'année, voilà, avec le tout premier. Je suis comme d'habitude accompagné d'Abdel, Thomas et Julien. Les gars, comment allez-vous? Bonne année.
Bonne année.
Salut les gars,
bonne année tout le monde. Tout le monde a passé de bonnes fêtes, un bon Noël, vous avez été gâtés, tout ça.
Super.
Ouais.
Encore malade, Julien.
Ouais,
j'avoue, Julien, ça dure longtemps quand même. Hein.
Ça dure, puis je trouve que vous n'avez pas trop changé depuis quand même.
Le Covid,
le dernier épisode, il me semble.
On est des très bons acteurs quand même. Non, en vrai, on tourne, on est encore en 2023. On va être totalement honnête avec vous. On anticipe et on espère que vous avez vraiment passé pour le coup un très très bon réveillon. Voilà, les gars, on va enchaîner une nouvelle année et on va parler pas mal de photos vidéo. On en a déjà parlé. Et moi, il y a un truc qui m'intéresse. J'ai envie de savoir comment vous organisez, parce que vous êtes tous un petit peu quand même photographes, vidéastes à vos heures perdues. Et je voulais savoir comment vous vous organisez pour sauvegarder, archiver, trier vos photos ou vidéos. Je pense qu'on a tous un peu des techniques différentes, des façons de faire différentes. Et on utilise peut-être des outils différents. Donc voilà, je voulais un peu faire le tour de table. Et on commence par le plus vieux, Abdel, et ses disquettes alors.
Ouh,
ouais, je balance.
Moi, j'ai une disquette, ouais.
Il est sur le vinyle.
Abdel, du coup, toi, comment, alors même si c'est pas ton métier, on est d'accord, mais comment, en règle générale, tu t'organises quand tu fais des photos, même de vacances et tout ça, quoi?
C'est le bordel, hein. C'est compliqué. Ouais. Je pense que c'est le problème de toute personne qui fait des photos. On accumule, on ne trie jamais, on met ça sur un disque dur, puis à un moment donné, on se dit « Ah, qu'est-ce que ça fait là, ça ?» Et non, je pense qu'on est un peu mieux organisé que la moyenne, enfin, j'espère.
Non, mais surtout toi, où en gros, t'es le roi des fichiers Excel et compagnie, de l'organisation, ça m'étonne que quand même tu ne sois pas organisé.
Oui.
Mmh. Ouais, et pourtant, je ne fais pas très confiance aux solutions genre... on va dire qui existe là, mais...
mais... Parce que, attends, partons de la base. Toi, tu fais des photos ou vidéos avec ton smartphone ou tu as un appareil dédié? Ou est-ce que tu as plusieurs appareils, en fait? Déjà, partons de là.
C'est ça le problème. C'est que souvent, quand je pars en voyage, j'ai une GoPro avec moi. J'en ai parlé dans un épisode il n'y a pas longtemps. J'ai l'Osmo Pocket. Donc, ça fait 2. 3, c'est mon drone. Donc, ça fait un troisième appareil qui fait de la photo. Et en plus de ça, le téléphone. Tu sais, veux pas en prendre des photos avec...
Tu l'amènes pas en voyage?
Non, ça fait longtemps que je prends plus d'appareils photo en voyage. À moins que ce soit vraiment pour faire de la photo. Puis là, je vais emmener l'appareil photo. Donc là, vous pouvez imaginer, il y a 3-4 sources de photos vidéo différentes. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai ce que je fais dans l'immédiat et il y a ce que je fais une fois arrivé à la maison. Donc, j'ai souvent avec moi, j'en ai parlé une fois, mon petit disque dur, 2 TB, le SanDisk, c'est un SSD. Ce que je fais, c'est que je vide jamais les cartes mémoire. C'est comme mon deuxième backup en voyage. Et je transfère une copie sur ce disque dur-là. Avant, j'en avais 2. J'en menais un comme ça et un autre comme ça. Et je faisais comme une deuxième copie pour être sûr. Parce que je vidais les cartes mémoire. Je voulais m'assurer que quand je faisais des nouvelles vidéos, la carte mémoire était vide pour des raisons d'espace et blablabla. Donc là, ce que je fais, c'est que je ne vide plus les cartes. J'ai des cartes avec des plus grosses capacités, on va dire. Et je vide plus les cartes. Donc là, au moins, j'ai 2 copies. S'il se passe quelque chose, au moins, je diminue, si tu veux, le risque.
Et ça veut dire que tu emmènes forcément un ordinateur portable avec toi pour faire les sauvegardes ou tu passes par ton iPad pour faire
Non, pas forcément. Ouais, avec l'iPad, ouais. C'est pas l'idéal. Puis Apple Sinus, si vous nous écoutez, s'il vous plaît, on veut un OS qui marche sur l'iPad parce que c'est dommage de ne pas donner cette capacité-là, cet appareil aussi magnifique. Mais idéalement, je préfère avoir mon ordi pour mettre les bons noms, machin. J'essaye aussi maintenant de plus en plus de faire le tri dans l'appareil. C'est pas toujours top. Le drone, je vais jamais regarder l'application du drone. Mais j'essaye de faire le tri tout de suite avant de transférer parce que le tri après, c'est fini. C'est rare qu'on va trier et puis on veut pas jeter. Donc, c'est ça que je fais sur place. Après, quand j'arrive à la maison, ce que je fais, c'est que j'essaye de faire un peu de tri. Et puis, ce que j'ai sur le SSD, je vais le transférer sur mon NAS à la maison. Et après, je fais une autre copie sur le cloud. Donc, je pense qu'on en a parlé il y a quelques temps, Flo. J'avais dit la technique 3-2-1. Là. Trois copies sur deux supports différents, dont un qui n'est pas...
Il y en a un qui est délocalisé.
Délocalisé, ouais. Okay. Donc moi, ce que je fais, je ne respecte pas forcément la règle, mais j'essaie d'avoir deux supports différents, le NAS et le cloud. Et sur le NAS, sur les deux disques que j'ai, j'essaie de ne pas acheter des disques de la même marque, de la même année, de la même, juste pour éviter s'il y a un problème sur une série quelconque, là, ou une production quelconque, au moins, ce n'est pas les deux qui seraient affectés. Donc en gros, c'est ça que je fais. Pour le cloud, ça dépend. Le téléphone, ça va sur iCloud directement. Et le reste, j'utilise OneDrive de Microsoft.
Et iCloud, tu as un abonnement avec un certain nombre de gigas ou de tera disponible, ouais. C'est ça?
Ouais, c'est ça. J'ai le forfait 2 terabytes qui coûte 12 et quelque chose, si je ne dis pas de bêtises, ou 13,99 ou 12,99. Ça, je ne peux pas m'en passer parce que j'utilise aussi pour le backup du téléphone, puis d'autres trucs qui sont vraiment reliés au téléphone. J'aimerais bien m'en débarrasser, mais je n'ai pas trouvé une meilleure solution. Et j'ai celui qui vient avec Office 365, qui donne quand même assez d'espace, que je vais bientôt caper et qu'il va falloir que je regarde une autre solution. Malheureusement, je ne sais pas si vous avez remarqué, les cloud providers, ils te donnent souvent 1 tera, 2 tera, puis après, c'est fini. Genre... Malheureusement, t'as pas plus, donc c'est ça.
Et après, il existe des outils, des services dans le cloud avec beaucoup plus d'espace de stockage, mais tu vas pas avoir un accès aussi fluide via une application, tu vas pouvoir les consulter, etc. Il y a certains services qui sont uniquement faits pour être une sauvegarde, mais t'as pas nécessairement un accès hyper simple. Il y en a un auquel je pense, c'est Backblaze, il me semble. Il y en a d'autres qui existent. C'est, et là, pour le coup, tu as des forfaits avec beaucoup plus d'espace.
Ouais, c'est ce qu'on appelle du cold storage, en fait. C'est que c'est pas sauvegardé sur des dispositifs qui sont rapides dans le transfert. C'est fait pour de l'archive. On archive, ouais. Puis si un jour on en a besoin, comme à l'époque, il y avait l'espèce de bande, là, cassette, là, on storait dessus. Et puis, tu avais les disques durs mécaniques qui étaient comme plus rapides. Aujourd'hui, c'est le contraire, c'est les SSD qui sont plus rapides et les mécaniques qui sont moins rapides, qui servent plus à de l'archivage. Honnêtement, je ne sais pas, mais je ne fais pas très confiance à ce genre de service-là. J'en ai expérimenté un dans le passé et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont juste fermé la boutique. Et malheureusement, je veux dire, à l'époque, j'avais pas vraiment des trucs très très importants qui étaient stockés dessus. Mais aujourd'hui, si je fais ce choix-là, ça serait perdu, quoi.
Ah ouais, donc ils t'ont même pas renvoyé une copie de tes disques et puis ils t'ont pas dit au revoir.
Non, il y avait rien. Et puis je me rappelle plus du nom là. Ils sont chanceux que je me rappelle pas du nom, mais ça avait fermé. Et franchement, c'était un des rares qui donnait, je pense à l'époque, 8 terabytes qui ne coûtaient pas super cher. Ça coûtait moins de 20 $. Et moi, j'avais décidé de tout envoyer là parce que ça ne coûtait pas cher. À l'époque, je storais mes photos sur Flickr. Puis Flickr, à un moment donné, c'est devenu payant. Puis là, je ne voulais pas payer pour un service qui sert que pour ça. Je voulais quelque chose de plus générique. C'est ça que j'aime, en fait, avec OneDrive. C'est que ça store tes documents de tous les jours. Ce n'est pas que de la photo. Parce que sinon je pourrais tout simplement utiliser Amazon, le stockage qui vient avec le forfait Amazon Prime, qui lui te donne photos illimitées, pas de vidéo, juste photos, résolution illimitée, nombre illimité. Mais encore une fois, c'est un truc qui va servir que pour les photos. Je trouve que c'est pas pertinent pour mon usage.
Ouais. Et donc tu parlais aussi que t'avais un NAS. Ça, est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que tu l'utilises que pour la sauvegarde de photos vidéo ou tu as tout un écosystème autour de ça?
Ouais, j'ai deux NAS, dans un que je suis en train de démonter là. C'est le premier, c'est une solution qui existe genre commerciale de Western Digital, c'est leur cloud blanc là qui a juste une baie avec un disque dur. Qui tombait en panne. Enfin, ils ont arrêté de supporter ce modèle-là il y a l'année dernière ou il y a deux ans. Et c'était devenu compliqué, c'était long, il faisait du bruit, puis tu y processais. Et ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai monté mon propre NAS, qui, ça peut paraître comme waouh, mais ce n'est pas du tout waouh. Il y a des tutoriels qui existent, ce n'est pas incroyable. Il suffit d'avoir un ordinateur que vous n'utilisez plus. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que les Synology, les machins, hein, ils ont des processeurs, ils ont des RAM qui sont pas incroyable en termes de puissance ou de capacité que tu peux retrouver dans un ordinateur qui date d'il y a 5-6 ans, des fois même 10 ans, tu vois. C'est suffisant. Il suffit d'avoir un ordinateur où tu peux avoir 2 B de disque dur. T'achètes des bons disques durs modernes avec une vitesse d'écriture et de lecture assez, on va dire, décente. Puis c'est suffisant, hein, pour monter un NAS. Il existe des solutions open source. On pourrait mettre des liens pour les 2-3 les plus connus. Qui se télécharge, qui s'installe franchement en un seul clic, il n'y a pas grand chose à faire. Et puis, il va reconnaître les disques durs. Tu demandes dans quelle configuration tu veux l'avoir, quel RAID tu veux avoir, comment tu veux qu'ils répartissent les données. Et par la suite, cette solution-là est exposée sur Internet. Donc, tu sais, tu y accèdes de n'importe où. C'est sécurisé, c'est du HTTPS. Tu peux même mettre du multi-factor authentication si tu veux. Je veux dire, c'est ça que je fais et ça permet de garder aussi la main sur ce qui se passe. C'est un projet open source. T'es pas obligé de mettre à jour la solution, mais c'est toujours recommandé de bénéficier des correctifs puis des nouveaux features. Et si demain, je veux dire, il y a très peu de risques qu'un projet open source tombe à l'eau. Je veux dire, ça va prendre plusieurs mois, années, et la communauté va en parler avant que ça arrive, et même après, il y aura d'autres gens qui vont prendre la main dessus. Donc, c'est là où j'ai décidé de faire un choix plutôt que partir sur un Synology. Moi, j'ai vu les vôtres, là, vous allez probablement en parler, là, mais ça me tente, mais je pense pas que vous avez plus de features, mais j'aimerais bien vous entendre là-dessus aussi. Ce que vous aimez là-dedans,
c'est quoi, oui. Le...
Bah, déjà, alors, on va d'abord passer par l'expérience de Julien, parce que je sais que t'as peut-être un peu
désastreux.
Moins...
ouais, c'est ça.
Peut-être,
ça
va être peut-être un peu moins organisé.
Ça sera pas aussi
le plus gros photographe avec le plus de disques durs.
C'est ça.
Mais qui fait rien avec.
Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton expérience à toi en tant que photographe? Tu fais un peu plus de vidéos maintenant avec ta chaîne YouTube, etc. Est-ce que tu peux nous parler justement de ton workflow, en fait, ta façon de travailler?
Ouais. Toi, t'as déjà vu mon ordi, donc tu sais que c'était
mais
très,
franchement,
très compliqué.
Ça va.
Maintenant, oui, bah oui, mais grâce à toi, hein, tu m'as...
T'as des dossiers.
En fait, je pense aussi que je m'étais rendu tellement à un point où c'en était... ça devenait juste ouvrir mon ordi, c'était anxiogène, tu vois. Mon bureau était plein parce que je mettais tout sur le bureau, bien sûr. Des photos, des dossiers à trier. Puis dans le dossier à trier, t'as à trier 1, à trier 2, à trier 3. C'est compliqué. Quand j'étudiais en photo... On nous avait bien appris comment organiser. À l'époque, je travaillais beaucoup sur Lightroom, donc on avait un dossier pour le catalogue, on avait un dossier pour les images. Donc, tu avais toute l'architecture qui était faite. Et ça, je l'ai fait pendant quelques années, surtout au début où j'étais très, actif dans le milieu de la photo. Je faisais des contrats, j'avais derrière des clients, donc c'est sûr que je ne voulais pas faire de la merde avec les photos de mes clients. Mais j'ai toujours été très, très simple. En gros, j'avais des disques comme ça, là.
Alors, explique-moi ce que c'est pour les gens qui sont juste en audio. Mais...
Ah oui, pardon, c'est juste c'est un disque dur ben classique. et en fait, tu sais, les espaces de stockage sont de moins en moins chers. Fait que, mettons, j'avais commencé à l'époque, c'était du 500 gigas, tu sais. Puis j'en achetais toujours par deux. Puis à un moment donné, tu sais, j'étais rendu qu'ils étaient pleins. Ben là, le 1 tera coûtait moins cher. Fait que j'achetais 2 1 tera. Puis etc., etc. Puis je me suis rendu jusqu'à 4 tera à peu près pour chaque disque. Et à un moment donné, j'avais essayé un espèce de toaster là, comme ça, où tu mets tes disques pour avoir un RAID directement dans le système là. Mais je sais pas pourquoi, j'avais pas trop aimé l'expérience, parce que je m'étais fait dire après qu'en fait il y avait une puce à l'intérieur qui gérait l'accès aux données sur les disques, mais il n'y avait qu'une seule puce. Donc, je ne sais pas si c'était vrai, mais j'avais comme flippé d'un coup. Je me disais, si cette puce, elle crache, du coup, ce n'est pas intéressant d'avoir deux disques parce que je perdais tout. Puis, comme je n'étais pas trop tech, j'avais juste comme retourné le disque, puis j'avais dit, OK, fuck off. Mm-hmm. Et après, quand ça a été vraiment juste mes photos personnelles de voyage et tout, c'est là que ça a commencé à déraper. Puis, pas mal juste. C'est juste sur mon ordinateur, je trie à peu près dans des dossiers. Mais là, j'ai changé. Pardon. Là, j'ai changé d'ordinateur. Je suis passé au Mac Mini l'année dernière. Je fais comme ça, on est en 2024. Depuis, je me suis dit, OK, là, je repars sur un disque dur qui est vide et je veux vraiment que ça soit clean de chez clean. Donc, j'ai vraiment créé mes dossiers. Où j'ai tout organisé pour ma chaîne YouTube par exemple, en plus comme j'ai plusieurs émissions, fait que là maintenant j'ai un dossier OBS où quand j'exporte mon fichier ça se ramasse là. Après je vais avoir quand je prends le truc je vais le mettre sur DaVinci, je fais mon montage là, j'ai comment t'appelles ça, render, tu sais, quand je render mon l'export, projet, ouais. L'export, là je vais le mettre dans un autre dossier de YouTube, ok. Après je vais avoir des dossiers qui gèrent mes miniatures. Je vais avoir des dossiers pour les shorts. Donc là, j'extrais des shorts depuis Riverside, justement, que après je peux mettre. Donc dans telle émission, telle personne que j'ai interviewée, j'ai les contenus shorts et la vidéo longue éditée. Et voilà. Mais après, pour les photos personnelles, c'est pas encore au point.
Mais est-ce que c'est un dossier template que tu as, que tu utilises à chaque fois, que tu réutilises pour chaque projet?
Pour les vidéos, tu parles?
Le workflow que tu as décrit avant avec un dossier pour chaque, est-ce que tu as un dossier ou que tu réutilises à chaque fois pour...
Mettons, le dossier d'export, c'est le même pour toutes, mais ce dossier-là, il doit rester vide, en fait. C'est-à-dire que quand j'ai exporté, je vais le prendre et je vais le mettre au bon endroit. Et après, j'ai vraiment un dossier par projet.
Et tout ça, c'est manuel. Étapes-là, c'est fait manuellement et puis...
Ouais, c'est tout fait manuellement, donc c'est sûr que je pourrais automatiser. Et j'ai tout sur mon disque. Par contre, j'ai aucun backup pour l'instant.
Ouais. Ça c'est un peu...
Non, parce que ce que je fais en ce moment, c'est sur YouTube, enfin, je m'en fous. Quoi.
Ouais. Mais est-ce que tu n'arrives pas vite à justement la limitation de stockage de ton Mac et tu te retrouves à devoir trier, tu vois?
Je vais bientôt y arriver, je pense. Mais non, j'ai encore de la marge.
T'as un disque de combien?
512, j'ai pris. Ou un terrain, okay. Je sais plus.
Ah ouais. Et t'as toujours pas saturé?
Oui, ça, je regarde.
Moi, j'ai eu un Final Cut, ça me...
Ah ouais?
Ben non, après, Final Cut, c'est de la merde pour la gestion d'espace. C'est horrible.
Attends, voir. Stockage, je vais vous dire tout de suite. Espace utilisé, 175 gigas sur 500.
Waouh!
Et ça prend en compte tous tes logiciels en plus installés, ouais. C'est bien.
Application, 18 gigas.
Rien sur ton ordi, à part DaVinci, c'est fou, quoi.
Minimaliste, le gars.
Ouais.
Julien, quand tu parles de photos, t'as pas de workflow pour les photos?
Alors, pour les photos, dernièrement, j'étais plus en JPEG. Parce que comme je suis retourné chez Fuji, puis j'aime vraiment leur simulation de film, donc déjà ça libère vachement de place, parce que quand t'es habitué à shooter en RAW, avec des grosses résolutions, après ça tu gardes pas juste un RAW, parce que tu vas exporter tes JPEG, et que ça va vite, t'as des doublons pas mal, fait que là vu que je suis que en JPEG, la vérité c'est que ça reste sur mes cartes mémoire, parce que j'ai tellement de cartes mémoire.
Ah oui
ouais.
Ah ouais.
Et en fait, ouais, c'est quand j'ai commencé à avoir le Wi-Fi là, sur les caméras. Au final, non mais je sais, c'est catastrophique. Hein. Et les gens, ils vont plus vouloir se faire conseiller par mon magasin. Ils vont dire, mais t'as un tocard fini, je veux pas que tu me conseilles. Mais en tout cas, sur le stockage. Mais c'est ça le truc, c'est que quand, au final, je me rendais compte que, bon, déjà, moi, je pense qu'on en a déjà parlé dans un épisode, mon plaisir, il est au moment où je prends l'image. Okay. Après, dans la publication de la photo, c'est au moment où je vais la mettre sur Insta ou je vais la partager un peu, tu vois. Mais ça, je vais l'envoyer directement depuis ma carte mémoire sur mon téléphone. Après, sur mon téléphone, j'upload. Et après, voilà quoi. Tu sais ce que je veux dire? C'est comme si l'image, j'y reviens jamais d'une certaine façon. Je pourrais quasiment l'effacer, des fois, j'ai l'impression. Après, il y a une partie de moi qui dit c'est pas cool de faire ça. Mais,
j'ai l'impression, du coup, que tu fais jamais de photos pour le souvenir, pour te remémorer un moment passé. C'est juste un truc artistique. Ouais. Et puis, une fois que c'est diffusé, c'est fini.
Ouais.
C'est vrai? Il n'y a jamais, une notion de souvenir dans l'aspect prendre une photo. Pour capturer un moment qui te tient à cœur, par exemple.
Mais ça, j'en ai quelques-unes, mais j'en ai vraiment pas beaucoup. Ça tient sur mon téléphone.
Okay.
Mais ça vient peut-être avec le temps. Peut-être que tu vas vouloir faire des vernissages, tu vas vouloir l'exposer. Ça va peut-être venir plus tard.
Ah, peut-être. C'est pour ça que je me garde une petite gêne et que j'efface pas tout. Mais en vrai, j'ai des disques durs, il faut que je retourne dedans. En plus, j'ai plus Lightroom parce que je voulais faire des économies, donc j'ai arrêté l'abonnement. Donc c'est une merde, c'est une merde.
Moi, je dis bravo parce
on peut te donner une astuce pour avoir Lightroom. Hein, si tu veux.
Ouais. Ah ouais, moi, je dis bravo parce que j'arrive pas à effacer, en fait.
T'arrives pas à effacer ?
Non, j'arrive pas à effacer et ça, c'est un problème. J'arrive pas à effacer une fois que j'ai exporté. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, j'efface. Si j'efface sur l'appareil, c'est fini. Ça, je suis capable de le faire. Mais tu l'as dit, c'est compliqué. Moi, le Wi-Fi, j'ai essayé, mais je t'avoue que j'ai essayé avec des anciennes générations d'appareils. Peut-être que c'est mieux aujourd'hui, mais j'ai jamais utilisé le truc du Wi-Fi, même sur le drone transféré. Bien, non, j'ai besoin de la carte.
Ça marche bien, Rico, ça marche bien. Mais tu sais, moi, ce qui m'a aidé, c'est que je l'avais parlé aussi sur le podcast, mais c'est quand je me suis fait voler mes disques durs. Ça te calme direct. Hein. Parce qu'en fait,
j'imagine.
Ça te calme et en même temps, tu te dis j'ai survécu. J'ai survécu finalement. Et j'étais soulagé parce qu'en plus, il y avait plein de photos. Le mec, je sais pas s'il s'amusait à ranger les photos qu'il a volé. Mais
il était à poil.
Il a dû paniquer. Mais non, c'est même pas les photos. C'est que juste, il a dû voir le bordel. Il a dû dire mais c'est un taré ce mec.
Il redonne, tu sais, genre. Tiens, je te les range.
Ouais, c'est ça, il l'a ramené. En vrai, c'était un bon samaritain. Fait que, ouais, ça peut t'aider. Tu prends un marteau, tu claques un disque dur et tu vas voir.
C'est là où le cloud vient justement corriger ce. Pas corriger, mais.
Mais il est payant du coup.
Mais parlez-moi de Synology là, parce que pour vrai, je suis intéressé parce que vous pourriez me vendre l'idée là.
Vas-y, okay. Thomas.
Alors, bienvenue dans le podcast. Alors, moi, comment j'enregistre ? J'enregistre en fait. Ça fait un moment déjà que j'ai switché de la cassette à la disquette. Non, en fait, mon workflow, comment ça se passe ? Moi, je suis photographe vidéaste, admettons. Je fais mes photos, mes vidéos sur une carte, donc dans l'appareil photo. Et je suis un peu quand même Dell. Moi, je garde toujours, même après avoir importé sur l'ordinateur, que ce soit dans Final Cut ou que ce soit dans Lightroom, je garde toujours ma carte pleine. Sauf si j'ai contrat tout de suite derrière. Je la garde comme ça me fait un double backup. Donc après l'importation sur Final Cut ou sur Lightroom. Donc ça, je le garde toujours sur le côté, au cas où, parce que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois que l'importation s'est mal faite, ça s'est mal passé, etc. Je les ai toujours sur ma carte, tu vois. Puis ça ne me coûte rien de les avoir là, parce que de toute façon, je ne vais pas shooter si je suis en train d'éditer. Donc je garde toujours ma carte à côté. J'édite mes photos, mais avant de commencer à éditer mes photos, je fais aussi une copie de mes RAW directement dans mon disque dur. Moi, j'ai en fait 12 Tera là sous mon bureau. C'est 3 disques durs de 4 Tera de Western Digital, des RAID plus, qui sont mis à l'intérieur d'un B qui refroidit. En fait, il y a une fan qui tourne et c'est juste en fait juste pour avoir des disques qui sont tous connectés ensemble. Ça part en câble USB, même pas USB-C, USB-A normal et ça vient dans mon ordinateur. C'est des 7200 tours minute. Et honnêtement, ça marche très bien. C'est sûr que je peux éditer dessus, j'ai déjà édité dessus. C'est sûr que c'est un tout petit peu plus lent que sur SSD. Mais honnêtement, ça fait déjà bien la job. Tu peux éditer des photos sans problème, des vidéos un peu plus lourdes, c'est un peu plus compliqué. Mais ça permet de faire du stockage longue durée. Et là-dessus, donc, je copie depuis ma carte SD de l'appareil. Donc mes RAW sur Lightroom, ils sont importés. Mais ils sont aussi importés dans mon disque dur. Donc c'est-à-dire que j'ai un triple backup. Mais... l'importation Lightroom, l'importation disque dur et j'ai toujours ma carte qui est bonne.
Donc, triple backup.
Pourquoi t'es allé sur 3 disques plutôt ? Parce que 2, ça m'a l'air déjà pas mal, non ?
Ah non, mais ça, c'est parce que mes 4 Tera, ils sont juste pleins. Et du coup, j'ai acheté un deuxième. Dès qu'il était plein, j'ai acheté un troisième, etc.
Ok.
Donc,
est-ce que tu penses que c'est too much ou est-ce que c'est trop risqué d'avoir seulement une copie, mettons, d'avoir juste 2 disques ?
Eh bien, c'est ça. C'est que c'est ce que je me disais ces derniers temps et que moi, il y a un truc qui me frustrait vraiment, c'est à chaque fois, faut que je te montre une photo. Souvent, je veux montrer à mes clients des photos, je veux montrer des exemples et j'avais mes JPEG dans mon téléphone, sauf que j'avais commencé à prendre iCloud. Donc, ça a été le 5 gigas. Après, tu tombes dans la routine, t'en as marre de voir le pop-up, tu prends 10 gigas, etc. Tu montes. Et je t'ai monté à 200 gigas et finalement, même avec 200 gigas, en mettant mes photos sur le cloud, ça me saoulait. Donc certes, c'est cool parce que ton iPhone, c'est directement dans l'application photo, donc ça, c'est vraiment intégré, tu vois même pas que tu es sur iCloud. Mais c'est compliqué.
Excuse-moi,
à gérer, tu
Thomas,
peux rien gérer.
Ouais. Donc là, tu parles de photos prises avec un appareil photo que tu mets sur ton iCloud
mon
et que
iPhone.
Tu visionnes sur ton téléphone.
Exactement. Donc ça veut dire que ça pompe énormément de place. Tu sais, une photo prise avec un A7R 5, c'est 60 mégs, donc dès que je l'apporte dans mon téléphone,
mais
ça va vite. Ça fait 6 gigas avec 100 photos. Hein?
Mais t'es les RAW aussi
Non, juste les JPEG traités.
Okay.
Donc, je l'exportais sur mon téléphone et là, je montrais. Sauf que là, je commençais à arriver à une limitation. Entre le stockage de l'iPhone plus le iCloud, j'avais tout le temps le pop-up de machin et je ne voulais pas passer à 2 Tera parce que je trouvais ça trop cher, en fait. Et moi, je trouve que iCloud, c'est un peu de la merde. Tu peux rien régler, tu peux rien choisir comme tu veux, à droite, à gauche. Il n'y a aucun réglage possible, en fait. C'est vraiment, c'est... Voilà, tu sais, cette photo-là, c'est moi qui choisis, c'est le logiciel qui fait et moi, je ne fais rien du tout.
C'est quel genre de réglage que tu aimerais avoir? Parce que moi aussi, je ne suis pas très satisfait d'iCloud, mais je suis curieux de t'entendre là-dessus.
Mon iCloud, si j'ai envie de désactiver juste en décochant quelque chose, en fait, quand tu coches photo, c'est hyper vague. Il va prendre tes premières photos, mais la qualité, machin, qu'est-ce que tu veux, optimiser, machin. Il y a 3 réglages et ils sont pourris, en fait, les réglages. J'aimerais bien que, est-ce que par visage ou par machin, tu sais, par catégorie, par album, ok, je veux que les JPEG prises d'un appareil photo soient sur iCloud, sinon tout le reste, tu me laisses dans mon iPhone. Les photos prises, tu vois, tu peux pas faire
un segmenté. Mais là, tu parles de post-backup. Ok, fois que c'est sauvegardé, ok, je pensais parce que iCloud, t'as pas 3 options dans la sauvegarde. Hein. Soit tu veux qu'il prenne l'original et il la met dans le cloud, exact. Et il te laisse sur le téléphone, soit il te laisse pas sur le téléphone. Ça, c'est, je comprends pas comment ça a jamais évolué depuis que ça existe.
Je sais pas vous, mais terrible. Moi, il y a un truc qui me fait flipper avec iCloud. Là, quand j'ai vendu mon ordi, mon MacBook, chaque fois que j'efface une photo, j'ai l'impression que genre je l'efface de partout. Que j'ai de la misère à dissocier qu'est-ce qui est sur le device, qu'est-ce qui est sur le cloud, et je suis tout le temps en stress, quoi. Je suis tout le temps en stress avec ça.
Et en plus, t'as des messages. Attention, si vous ne faites pas ça, vous allez avoir. Et tu dis, mais qu'est-ce que j'ai perdu? Là, c'est ce que j'ai fait la dernière fois sur mon téléphone quand tu passais au NAS. On va arriver au NAS. Et j'ai rien perdu. Je comprends pas. Il m'avait dit que j'allais perdre mes photos. Enfin, bref. Donc, en gros, je me disais, j'en ai marre de payer. Et Manon aussi, elle a commencé à partir un petit peu dans ce terrain-là, photo, vidéo et tout. Même problème avec son téléphone. Elle a switché. Elle avait Google Photos. Donc Google Photos qui est autant de la merde que iCloud. Là pour télécharger les photos, c'était une galère. Ils te le rendent disponible 24 heures. Si t'as pas 24 heures pour les télécharger, t'es pas chez toi, t'es obligé de recommencer pour passer, tu sais, pour télécharger toutes tes photos. Et le classement de quand tu les télécharges de Google Photos à ton ordinateur, il te classe ça comme du grand n'importe quoi. Il te fait des doublons comme n'importe quoi. Il t'invente des noms de fichiers comme n'importe quoi. On a dû trier ça pendant au moins une semaine. Franchement, c'était une catastrophe. Enfin, bref. Donc, en gros, moi, devant mes clients, pour revenir à ce que je disais, je voulais montrer mes photos. Eh ben, ça ne marchait pas. iCloud, ça met du temps à charger, etc. Je trouvais que c'était nul. Et je dis, OK, Thomas, là, il faut que tu arrêtes de payer iCloud dans le vent, que... Ma blonde, elle arrête de payer Google Photos et iCloud dans le vent. J'ai fait les calculs et tout. En vrai, je me suis dit, OK, si je prends un NAS, là, qu'est-ce que je devrais prendre? Et je me suis un peu renseigné sur tous les NAS qui existaient. Il y en a plein. Mais la solution la plus complète, clé en main que j'ai trouvée, donc très facile d'utilisation, c'était Synology. Donc, Synology, pourquoi ça m'a fait pencher vers eux? Parce que justement, tu avais tous les logiciels derrière qui sont mis à jour très souvent. Ils sont très souvent actifs sur les réseaux sociaux, etc. Mise à jour de sécurité, etc. Je ne sais pas comment ils sont dans la sécurité, moi je m'en foutais. Je veux juste mettre des photos JPEG, en fait, et que je puisse avoir accès partout depuis mon téléphone et que ça soit beau quand même dans mon téléphone. Je ne voulais pas un truc qui soit fait il faut que je crée une page, il faut que machin et tout. Là, c'est vraiment bien fait. Ils ont une application qui s'appelle Synology Photo. Et tu peux les trier par date, par dossier. Tu as une fonction recherche avec l'intelligence artificielle où tu peux dire « cherche un arbre », il va chercher les arbres, etc. Tu peux faire par les visages, un peu comme Apple. Et puis, tu peux décider aussi d'enregistrer les photos de ton téléphone, si tu as envie, dans ce dossier-là. Donc ça, c'est cool.
Et ça, c'est automatique ?
Juste un petit conseil. N'utilise pas trop ces fonctionnalités-là sur ton disque dur parce que le disque dur n'est pas fait pour faire ce genre de traitement. Donc, il va vieillir beaucoup plus vite. Il va s'user beaucoup plus vite.
Par rapport à quoi tu parles ?
Ou genre recherche ce que t'appelais intelligence artificielle,
je sais où sont mes photos parce que je les ai bien classées, tu vois. Donc une fois que j'ai reçu mon NAS, je l'ai paramétré. Honnêtement, c'est pas compliqué, c'est comme paramétrer une borne internet. J'ai dû rentrer un HTTPS machin, rentrer dans le truc, s'il était connecté à mon réseau. Il m'a demandé des questions de sécurité, il m'a demandé des doubles facteurs, etc. Et ensuite tu peux créer un nombre d'utilisateurs qui peuvent avoir accès ou non. Tu peux leur donner accès à éditer ou à juste faire de la lecture. Donc, c'est-à-dire que si tu as envie de donner un lien d'un dossier à un client, tu fais clic droit, client, t'envoie. Donc, c'est-à-dire que tous les photos dossiers que tu envoyais de 10 gigas en 8 transferts, que tu payais un abonnement 8 transferts, bah là, tu ne le payes plus, tu peux envoyer 100 gigas sans problème à cette personne, il va la télécharger par la suite. et il a accès juste à ce dossier-là et pas plus. Une fois que c'est fait, tu peux l'enlever, tu as les clés de déchiffrement qui sont avec et tout, donc c'est assez bien fait. Et puis, tu as accès aussi à toute la partie un petit peu de dossier, donc si tu as envie de faire des dossiers un petit peu plus avec des trucs plus sensibles comme des, je sais pas, tes passeports, etc., donc tu mets tes fichiers sur le disque dur. Moi, le Synology que j'ai choisi, c'était un 2B, donc j'ai pris un 12 Tera et un 12 Tera, donc il y a 12-12, et ils sont en miroir, donc en vérité, j'ai pas 24 Tera, j'ai 12 Tera, parce qu'ils écrivent entre eux, enfin, ils copient exactement ce que l'autre a, en fait, sur son disque dur, et s'il y en a un qui est amené à lâcher, ben, en fait, j'aurai toujours mes photos qui sont sur ce disque dur. Donc, en gros, moi, ce que j'ai fait quand j'ai reçu le NAS, c'est que j'ai vidé mes disques durs que j'ai ici en JPEG. J'ai tout copié dans des bons dossiers, année 2023, le mois de juin, j'ai fait ça, le machin avec des dossiers vraiment bien faits. J'ai pu choisir aussi la petite photo de couverture pour mettre sur mes dossiers. Et puis, ben, l'application est super sexy, c'est super propre. T'as accès à tes vidéos, tes photos, t'es tranquille. Et puis, honnêtement, ça va beaucoup plus vite en lecture que iCloud. Je le fais en magasin, j'appuie, j'attends quasiment maximum une seconde et demie par photo et je les ai en full res. Et pourtant, c'est des photos qui sont très lourdes.
Mais ça, faut bien le mentionner, là. Ça dépend beaucoup de la qualité de ton réseau.
Connexion Internet, bien sûr.
De ta connexion Internet, donc il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Ça joue beaucoup aussi sur la RAM que tu as sur ton Synology, le processeur qu'il utilise, l'espace qui reste, parce que des fois, il fait du buffer sur le disque. Donc, ça dépend beaucoup de ce genre de choses-là.
Et si tu pars en voyage, est-ce que tu enlèves un disque? Parce que tu sais, il y a toujours le risque que, mettons, tu te fais cambrioler, justement, j'ai déjà vécu, ou un incendie ou une inondation. Si tu as deux disques qui sont dans le truc et que tu perds tout, on est d'accord, il n'y a pas de backup sur un cloud, est-ce que tu peux enlever un disque temporairement, l'amener où avec toi ou le mettre dans un coffre-fort quelconque?
Oui, ou deuxième solution, tu peux t'abonner à leur cloud qui te permet de sauvegarder ton disque dur sur un cloud chez eux. Donc, c'est un abonnement supplémentaire. Bah, ça, c'est un abonnement. C'est un abonnement à payer supplémentaire. Tu peux après choisir, ça dépend ce que tu as comme disque dur. Et puis, en gros, ça veut dire enregistrer. Donc après, normalement, si t'as bien sécurisé ton truc, normalement, quelqu'un ne devrait pas avoir accès à ton technologie comme ça, quoi.
Bah, la question de Julien, c'était le 1 dans mon 3-2-1. Mm-hmm. Une copie hors site pour ce qu'on appelle du disaster recovery, au cas où il se passe quelque chose, au moins t'as une copie qui est...
C'est une bonne idée, j'avais même pas pensé à ça, tu vois.
Ouais. Après, je sais pas comment ça fonctionne dans Synology, tu peux enlever le disque comme ça à chaud?
Non,
puis,
tu peux pas.
Non, mais tu peux l'étendre et puis sortir le disque.
Ouais. Ok. Mais là, du coup, t'as plus accès à distance à tes trucs de la même façon.
Bah oui, non, mais tu l'éteins, tu sors le disque et tu le rallumes.
Voilà.
T'as toujours accès, du coup.
Ouais, mais t'as un seul disque et il y a une désynchronisation entre les deux disques quand tu vas le ramener après.
Oui, message d'erreur. Là, il t'envoie des alertes. Il m'envoie des alertes à chaque fois qu'il y a une mise à jour à faire et tout. Donc, c'est comme un petit ordinateur. Donc, imaginez-vous que vous vous connectez sur comme un site internet, en fait. Un site internet Synology. Et en gros, ben, vous avez un ordinateur devant vous, un bureau. Et dedans, en fait, ben, vous organisez vos dossiers comme dans votre ordinateur. Et en fait, bah, ça se reflète sur les applications, que ce soit sur iPad, iPhone. Et il y a aussi Synology sur l'Apple TV, sur tout ce qui est Google Play Store, etc. Donc, c'est-à-dire que là, mes parents, en France, je peux choisir les dossiers. Donc, dossier Canada, on a fait ça, on a été faire du vélo, on a été faire du ski, etc. Et en fait, je donne accès à ça. C'est-à-dire que sur leur télévision connectée, ils vont sur l'application Synology, ils ont accès à ces photos en direct, même si je ne suis pas à la maison, même si je ne sois pas au courant, vu que je leur ai créé en fait, un profil, ils ont accès à distance. Donc en fait, ils ont juste connecté le week-end et dire « Oh, regarde, ils ont fait ça, ça s'est rajouté, il y a un nouveau dossier, etc. » Faire des diaporamas, etc.
Il ne faut pas te tromper dans le partage des images, par contre. Hein.
Exactement.
Mais
Oh, regarde ce qu'ils ont fait.
C'est pas quelque chose qui est propre à Synology, juste pour les gens qui nous écoutent là, parce qu'on veut pas non plus pousser les gens à acheter.
On est même pas sponsor par eux, on devrait leur demander.
Exact. Bah, s'ils nous écoutent. Moi, j'en ai pas.
Mais Flo, toi, t'avais déjà fait une présentation sur leurs produits, et du coup, toi, c'est.
Ça date de 2016 ou 2017.
Mais depuis, t'es avec eux.
Bah, j'utilise toujours le même NAS en fait. Avant, Abdel, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose?
Non, c'était juste ce que Thomas disait, c'est pas propre à Synology. Toutes les solutions de cloud, open source ou pas open source, utilisent un peu la même chose, des applications iPad, iPhone, Android, télé, c'est très commun aujourd'hui, c'est une commodité.
En fait, ce qui était cool avec Synology, c'est qu'ils ont plein d'applications qui sont vraiment implantées et vraiment mises à jour assez souvent. C'est par exemple, moi, j'utilise Plex. Donc Plex, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est comme un serveur que tu crées chez toi, en fait, virtuel, pour pouvoir envoyer sur ta télévision sans fil, en fait, des films que tu as dans ton disque dur. Ben moi, là, ce que je fais actuellement, c'est que j'ai téléchargé Plex. Donc, en fait, ce qui est bien fait avec Synology, c'est que pour quelqu'un qui n'est pas fort comme moi dans la création d'un NAS, maison, etc., j'ai été dans comme le store, en fait. Donc, je double-clique sur, comme je disais, sur mon ordinateur virtuel. Je double-clique dessus. OK, qu'est-ce que vous voulez installer comme application Plex. OK, je clique dessus. Il me dit, ah, vous aurez besoin de cette application-là. Parfait. Installez-moi mes trois applications. Moi, j'y connais rien. Ensuite, il dit, juste connectez votre compte Plex. Je l'ai connecté. Et ensuite, où aller chercher mes films. Et en fait, Plex, il travaille avec eux pour transcoder en direct le film à l'aide du processeur du disque dur. Et depuis que je l'utilise, je peux faire vraiment la plus haute des qualités à fond. Alors qu'avant, dans mon disque dur ici que j'avais des bugs de lecture. J'avais des fois des bugs de son qui déconnectaient. J'avais juste à faire play pause et ça repartait. Mais maintenant, j'ai plus ce problème-là parce que je ne sais pas si ça se fait mieux, mais ça transcode correctement.
Dans le monde des... Encore une fois, ce n'est pas pour être chiant, mais tout ça, c'est des choses qui existent dans toutes les solutions.
Ça existe partout. Et puis, comme je disais, tu peux faire ton NAS maison, mais moi, je voulais vraiment un truc clé en main. Je le pose, je ne réfléchis même pas. Moi, je ne comprends même pas comment ça fonctionne. Après, mais ça marche bien, c'est facile.
Tu dis clé en main, ça reste quand même... moi, le monde des NAS, j'ai l'impression que c'est des usines à gaz, les trucs. T'as beau avoir même un Synology, il y a des trucs, tu vois, l'autre jour, on voulait se partager un dossier pour les shorts pour TikTok et compagnie. Juste se partager un dossier facilement, que tu aies accès comme il faut et tout, moi, je trouve que c'est déjà une galère. Accéder au NAS via un ordinateur hors de chez moi, je galérais à trouver comment le faire. Il y avait des histoires de SSL, de HTTPS, machin, de plein de trucs. C'est pas si simple que ça, même si c'est un truc Synology tout fait et tout ça. Moi, je trouve que ça reste un peu un truc de geek. Hein,
c'est peut-être parce que aussi, toi, quand tu l'avais paramétré, il n'y avait pas tous les tutoriels peut-être aussi. Moi, quand je l'ai démarré,
je l'ai réinstallé en arrivant au Canada, tu vois.
Il me disait, mettez le double facteur. OK. En plus, il me disait, est-ce que vous voulez paramétrer des personnes? OK. Les personnes-là auront accès à ce dossier-là en éditeur ou pas? OK, paramétré. J'ai paramétré ces personnes. J'ai mis leur mail. Ça a envoyé un email. Ils ont juste fait get link, soit aller dessus. Ça s'est fait automatiquement. J'ai rien fait de vraiment sans de fou, hein, paramétrage.
Ouais.
J'ai rien touché, quoi.
Ça devient de plus en plus friendly, là. C'est pas.
Et du coup, c'est ça. Je peux montrer mes photos en direct. Donc, moi, dessus, je mets juste mes JPEG finaux. C'est ce que je montre à mes clients. C'est ce que je télécharge sur mon téléphone. Là, j'avais une photo à imprimer. J'ai téléchargé directement depuis mon téléphone. Je me suis envoyé sur mon mail au boulot. J'ai accès partout à toutes mes photos. Moi, je suis content. Et puis voilà, quoi. J'ai réduit toutes mes factures. Hein. Ça, c'est la finalité de la chose. J'ai plus iCloud. Je ne paye plus iCloud du tout. Ma blonde aussi, elle a plus Google Photos et je paye plus 8 transferts pour faire des gros transferts.
Tu es capable de chiffrer en gros ce que ça t'a coûté maintenant versus ce que tu payais avant?
C'est simple, si je devais prendre un 12 terrains chez Apple aujourd'hui, ça coûte à peu près 79,99 CAD par mois.
Ils font 12 maintenant, hein, depuis pas longtemps.
Ouais, depuis pas longtemps.
Ça coûte cher.
Le Synology m'a coûté au total 900$. Au total, avec les 12 terrains, les deux 12 terrains. Parce que le Synology était à peu près à $450, un truc comme ça. $469, c'était la dernière génération. Le 2B. Les autres ne sont pas si chers que ça. Quand tu rajoutes 4B, etc., tu montes peut-être de 50 pièces, 60 pièces le Synology.
Et puis après, pourquoi tu n'as pas fait le saut? Pourquoi tu n'as pas
le 4 Pas tout de suite. Pas tout de suite. Au pire des cas, si je vois vraiment que j'ai trop de photos, parce que je me suis dit que je mettais que les JPEG et pas les RAW dedans. Les RAW restent quand même dans mon gros disque dur que j'ai ici. Eux, ils tournent quasiment jamais comme ça et puis ils sont tranquilles. Ça se perd, tu vois.
Flo, ça fait quasiment 10 ans qu'il a le sien, il fonctionne encore.
Ah oui.
Donc moi, je miserais sur plus de B pour justement soit pour faire une double backup ou avoir une deuxième série de backup, tu vois.
Est-ce que tu peux l'utiliser avec deux seulement si t'en as quatre?
Ah, si tu fais un miroir.
Même avec un seul. seul disque. Et la configuration se fait à l'intérieur. Ouais. Je sais pas dans Synology, mais il doit te demander de quel type de RAID tu veux, et puis c'est ça.
Si tu fais le calcul, tu disais tout à l'heure, si tu as fait le calcul, bah, tu fais tes 79,99 CAD par mois pour un an.
Non, ça c'est cher.
T'es déjà plus cher que mon Synology.
Ouais, ça c'est cher. Ah. Mais pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, Google Photos, c'était une solution incroyable. On en avait fait un épisode là-dessus avec Flo, et au moment où on faisait l'épisode, ils avaient annoncé que ça allait devenir payant. Moi, c'était ma solution cloud. C'était gratuit, j'acceptais la résolution qu'ils donnaient parce que ce n'était pas full résolution, et ça marchait super bien. C'était une des premières applications qui disait c'est Thomas, c'est Julien, c'est Flo sur la photo, c'est un arbre, c'est un chien, c'est un poisson, machin et tout ça. C'était quand même super bien fait. Je suis d'accord 100% avec toi, parce que le jour où c'est devenu payant et j'ai voulu sortir mes photos, c'était une catastrophe parce qu'ils donnaient des fichiers là, c'était long en plus à downloader. Mais par contre, c'était un truc que tu oubliais dans ta poche là. Le truc fonctionnait tout seul, il se mettait à jour quand il y avait une bonne connexion, il le faisait. Contrairement à iCloud, il me fait des fois des trucs, je comprends pas. Je suis chez moi. Il me dit qu'il n'est pas capable de faire la sauvegarde et tu peux appuyer autant de fois que tu veux sur sauvegarder. Et je trouve ça dommage. J'ai regardé combien ça coûtait parce que je me suis posé la question avant, mais le fait que iCloud fait du backup pour les téléphones, le iPad, le machin et tout ça, c'était comme le plus qui a fait que je suis allé avec iCloud plutôt que Google Photos.
On peut retourner sur toi, Flo, du coup, par rapport à ton expérience avec Synology ?
Ouais, moi ça fait depuis 2016 ou 2017 que j'ai un As Synology, un 2B comme Thomas en fait. Et moi je vois, franchement j'ai pas, je veux dire j'ai une bonne expérience avec. Moi mon processus finalement entre photo et vidéo, j'enregistre sur une caméra de manière classique avec une carte SD. Une fois que j'ai fini mon tournage, je mets ça sur mon je rentre la carte dans l'ordinateur. J'ai toujours un SSD externe qui est branché. Que ce soit les petits SanDisk ou les petits Samsung T5 ou T7 là, en USB-C, donc très rapide. Je fais une première sauvegarde sur le SSD, et ça ça va être mon outil de travail en fait. C'est comme ça que je vais faire ma post-production, donc soit la retouche photo, soit le montage et tout ça. Et une fois que ça s'est fait, j'envoie aussi tous les rushs ou toutes les photos sur mon NAS. Donc j'ai un dossier pro perso, et puis après je l'envoie dans la bonne catégorie. Et là pareil, je mets tout, JPEG et RAW ou tous les rushs comme il faut.
Après trier ou c'est pas encore trié?
En général, quand je reviens d'un tournage, je trie pas nécessairement. Je le fais bien après. Je vais t'expliquer. Donc je mets tout sur le NAS aussi, donc ça me fait mon double backup. En général, je laisse sur la carte SD aussi un certain temps, sauf si j'ai un autre tournage et que j'ai pas d'autres cartes SD à utiliser, par exemple. Et voilà. Une fois que j'ai fait ma post-prod, mon montage, mes retouches, j'ai toujours un dossier rush et un dossier export dans mes projets. Et donc le dossier rush, il a déjà été mis dans le NAS, donc j'ai juste à glisser le dossier export dans le NAS pour compléter mon projet. Et comme ça, j'ai mon backup complet qui est fait sur deux espaces. Comme mon NAS, il est en miroir, comme Thomas l'a dit, en fait, j'ai déjà une sorte de double backup. Alors, c'est au même endroit, on est d'accord, mais quand même. Au moment où je vois que j'arrive à court d'espace sur mon SSD de travail, je fais un tri et j'enlève, au moins j'enlève les rushs, mais je garde les exports pour avoir le projet final. Et voilà. Et en fait, le tri, là où je le fais, si jamais j'ai besoin de... C'est si jamais... J'arrive à court d'espace sur mon NAS, admettons, ou si à un moment donné j'ai du temps, je retourne dans mes différents projets et là je supprime tout ce qui n'est pas nécessaire. Ce soit les RAW et les JPEG inutiles, les photos ratées ou les rushs qui ne servent à rien. Et c'est souvent comme ça que je fais. Et tu vois, donc il y a à peu près un an, un peu moins d'un an, j'ai remplacé mes deux disques de 12 Tera parce qu'ils étaient pleins. Et tu vois, de 2017 à 2020, à courant 2023, j'avais toujours utilisé les mêmes disques, ils avaient fonctionné. Donc franchement, c'est plutôt cool.
C'est des 12 que tu avais avant aussi.
C'est des 12 Tera aussi, ouais. Donc j'ai repris des 12 Tera, je suis reparti de zéro, les autres je les ai mis dans des boîtes dures, des cases un peu dures où j'ai écrit l'année, les années que ça a servi et grossièrement ce qu'il y a dedans, tu vois. Comme ça, ils sont à l'abri, ils sont dans des boîtes et tout. Je les ai mis à deux endroits différents chez moi. Enfin, il faudrait que j'en mette un dans un autre lieu quand même.
Mais à date, c'est que voilà. Du pro, c'est que du.
Non, il y a du pro. Il y a du pro et du perso dans le NAS.
Ok.
Beaucoup plus de pro que de perso. En fait, les persos, ça va être mes backups, mes sauvegardes de photos d'iPhone, par exemple. Et puis, 2-3 documents, mais globalement, les documents, tout ce qui est admin, c'est plus dans des services cloud facilement accessibles sur des applications et tout ça, en vrai. Mais le truc que je me posais comme question, quand même, c'est le fait que, comme c'est beaucoup pour du pro, est-ce que c'est intéressant d'avoir ça sur un NAS où je suis tributaire de la connexion réseau pour y accéder? Je ne peux pas travailler sur les fichiers qui sont sur le NAS, vraiment, il faut que je les rapatrie sur un SSD pour les utiliser. Donc, il y a un moment donné où j'hésitais à remplacer le NAS par une solution de SanDisk, d'ailleurs. Là, il y a une gamme SanDisk professionnelle et ils ont ce qu'ils appellent des G-RED. Et il y en a un qui s'appelle là le Shuttle 8, je vois, il est devant mes yeux là. C'est une espèce de gros boîtier où tu peux avoir jusqu'à 160 Tera dedans. Mais alors là, le truc, 160 Tera, c'est genre 6 400 $ le truc, tu vois. Donc c'est un autre délire. Mais c'est un boîtier où tu branches ça en USB-C à ton Mac et là, tu as une vitesse de ouf avec les SSD à l'intérieur et tu peux accéder à tous tes projets de pendant des années très facilement, en fait. Donc ça ressemble un peu comme à une tour de
PC en vrai.
Ouais, si tu mets des SSD.
Mais les SSD, c'est fait pour pas tenir longtemps non plus. Beaucoup moins après, longtemps qu'un HDD.
Tu peux toujours les remplacer, mais attends, je vérifie juste une seconde. Je crois
ça vient avec les disques, en fait. T'achètes avec les disques.
Je check vite fait.
Combien tu disais tout à l'heure, Flo, en terabytes, celui que tu regardais?
160 Tera au maximum.
Ouais, il était à 8 600 $ canadiens. Oh là là.
Ouais, ok, ouais. Tu vois, 6 300 US. Non, c'est des énormes trucs. Et en fait,
c'est un disque ou plusieurs disques dedans?
Ça existe des disques de 160 Tera?
Non. Je pense pas. Non, je veux dire, combien de disques il y a dedans? Parce que est-ce que c'est du. C'est quoi comme RAID?
Je sais pas. Mais en vrai, t'as raison, je suis pas sûr que ce soit des SSD. J'ai l'impression que c'est des disques durs classiques. Mais en tout cas, l'objectif, je veux dire, c'est qu'avec une prise USB-C une prise USB-C branchée à ton Mac. Bah, tu peux travailler sur un espace de stockage vraiment énorme, tu vois.
C'est des SSD, je te confirme, c'est des SSD.
Ah, c'est... Ok, parfait.
La vitesse de lecture, ça ne peut pas être des mécaniques. Ouais.
Ok. Donc, d'un point de vue purement professionnel, ce genre d'appareil serait pour moi presque plus intéressant qu'un NAS. Maintenant, bon, il y a le petit côté sympa de pouvoir y accéder à distance, comme disait Thomas, d'avoir des dossiers partagés pour les envoyer à la famille, etc., peut être cool, donc voilà, il faudrait un compromis avec un très très bon une très très bonne vitesse de transfert et pour pouvoir travailler dessus et pouvoir avoir l'aspect connectivité avec. Ouais. D'ailleurs Abdel, est-ce que tu as des astuces pour ça, pour mais en ayant un NAS comme ça, d'avoir une vitesse de transfert vraiment très rapide et même pouvoir travailler depuis les fichiers sur un NAS, ou est-ce que c'est déconseillé totalement?
Ça dépend. Les NAS, souvent, c'est pas des SSD. Donc, faire de la photo comme
dans. Tu peux mettre des SSD. Je sais que, encore 2016-2017, je travaillais avec Romain Lanéry, qui est un créateur de contenu. Et dans son NAS, c'était un Western Digital à l'époque, il avait mis des SSD en fait, dedans.
Ouais, mais ça coûte une fortune, avoir des SSD. Ou tu vas avoir des petits. Tu sais, ceux-là, là, les petits qu'on disait tout à l'heure. Là.
Oui.
Ça, c'est du 2 TB. Le plus gros qui existe, c'est du 4 TB. Il coûte quasiment 400-500 $.
Ouais.
T'imagines, si tu veux avoir les 12 TB de Thomas en SSD.
Ouais.
Après, c'est pas
des SSD de 4 TB, peut-être. Mais tu sais, c'est des SSD où c'est pas ce système de coque. C'est une autre connectique au bout, là. Donc, c'est un peu différent.
Tu m'as posé une question, mais j'ai une question pour toi. Est-ce que tu vas travailler localement ou tu veux travailler à distance?
Localement.
Ouais, ça revient un peu à ce que Thomas disait tout à l'heure. Il a un bon réseau, il a une bonne connexion, c'est-à-dire que ta télé, Thomas, est connectée en sans fil, c'est ça?
Ouais.
Ouais. Mais tu vois, si tu as un bon réseau chez toi, câblé, ton Mac est connecté avec un fil.
Vite, ouais.
Sur ton routeur ou sur un, peu importe là, sur un switch qui est sur un routeur, et que tu as des routeurs et des switches qui ont des capacités supérieures à ce qu'on peut voir aujourd'hui là, tu peux faire du digic en fait, de transfert. C'est vraiment
travailler en le branchant à l'ordinateur. Et
comment tu le branches à l'ordinateur, c'est ça le truc?
Ben, via l'USB.
Bah, le réseau.
USB, un port dessus, un in devant.
Non, via le réseau en fait.
Oui, tu peux par le réseau, ouais, mais.
Il faut que tu enfilères sur l'ordinateur aussi.
Oui.
Ouais, exact.
Mais je sais que moi, là où je suis situé, j'ai pas de câble.
Ouais, mais c'est ça. Donc ça, c'est ce que moi j'ai chez moi là. En ce moment, je suis câblé. Je suis sur un hub, mais le hub est câblé. Et c'est ça que j'ai fait, moi, chez moi. Je voulais m'assurer que dans toutes les pièces, j'ai au moins une prise Ethernet. Et ce que j'ai comme vitesse, je peux aller jusqu'à du 10 gig. Le câble qui est utilisé, la switch qui est utilisée, le routeur, c'est tous du 10 gig. Et ma carte réseau sur mon Mac aussi, elle fait c'est du Thunderbolt, donc c'est du 10 gig. Donc, c'est ça que ça prend, en fait. Et là, ton Plex va être... En plus, si ta télé est branchée, c'est encore, la vitesse va être incroyable, tu n'auras pas de lag, tu n'auras pas d'arrêt ou de buffering, surtout si tu as un bon processeur sur ton NAS. Ça revient un peu à l'épisode qu'on avait fait il y a quelques années là, pendant la pandémie, où est-ce qu'on disait avoir un bon réseau chez soi, avant même de penser à Internet, un bon réseau chez soi, même s'il n'y a pas d'Internet chez toi, quand je communique un ordi avec un autre appareil dans le même réseau, si tu es bien câblé, si tu as les bons câbles, la bonne infrastructure, déjà là, c'est super rapide. Et là, tu peux lire des vidéos 4K, 8K, storer sur des SSD ou sur des disques durs. Là. Mais ce n'est pas tout le monde qui a chez lui des câbles. Je pensais que chez toi, il y avait déjà dans le bureau, non? Dans le bureau, dans ton bureau.
Oui, il y en a un, mais il est de ce côté-là et je n'ai pas la place pour mettre mon bureau là.
Mais après, peut-être petite astuce pour les personnes qui se disent oh, ok, 900$, il faut quand même les investir, etc. Ça peut peut-être monter vite, etc. N'oubliez pas que.
Pour 12 terras, je trouve pas ça excessif. Hein.
Non, c'est pas cher, mais pour que ça roule, honnêtement, moi, ce que je faisais, c'est que je faisais facturer à mes clients un stockage de 1 an. Donc, en gros, je facturais 50€ quand j'étais en France, 50€ en fait pour le stockage de 1 an. Et en fait, quand tu fais ton calcul de 50€ de chaque client que tu fais chaque semaine, tu t'achètes largement ton disque dur et tu peux ensuite t'acheter même un deuxième et rendre ton premier 100% professionnel. Et ton deuxième, tu peux te l'acheter et te payer ton personnel avec.
Mais là, tu parles de pro. Pro, je pense que la question ne se pose même pas.
Oui, il existe, mais il y en a qui disent que c'est un investissement. L'atout, en fait. L'atout, c'est vraiment de rendre à distance l'accès à vraiment. Aux clients, en fait, depuis votre NAS, ils téléchargent, ils voient tout, ils peuvent même le partager avec des gens s'ils veulent, etc. Donc, d'un point de vue sécurité, je parle, tu sais, c'est juste pour que les gens soient tous sur le même. Et puis, si jamais, ça ne te pompe pas ton personnel, quoi. Moi, c'est ce que je faisais, en fait.
Mais en vrai, pour les photos de mariage, c'est super intéressant.
Bah oui.
Ouais, j'avoue que j'ai jamais pensé à proposer ça à mes clients, c'est un forfait intéressant.
Et généralement, moi, j'ai jamais une personne qui m'a dit non, je le prends pas, parce qu'ils savent très bien qu'ils vont regarder, télécharger la vidéo plusieurs fois. L'année, quoi.
Après, tu as deux points. Les gens sont, on va dire, plus réticents à payer des forfaits. Et aussi, là, tu stockes des données des gens. Donc, tu dois assurer derrière. Tu dois t'assurer que la vidéo ne va pas tomber. Donc, là, faut que tu ailles vraiment chercher les bonnes solutions pour t'assurer que si demain, il y a quelque chose qui se passe. Moi, je ne le ferai pas, ça, par exemple, avec un NAS, même en RAID, ce que tu veux, là. Ça, je ne le ferai pas, c'est sûr. Parce que là, ces gens-là payent un forfait. Je ne sais pas c'est quoi les clauses dans le contrat, là, mais c'est un peu dangereux.
Justement, par rapport à ça, il y a régulièrement, dans mon quartier, il y a des coupures de courant. Et à chaque fois, mon NAS, du coup, il coupe d'un coup, tu vois, à cause de la coupure. Et j'ai pris un onduleur, en fait, juste pour être sûr, avec un onduleur avec une sorte de batterie, en fait, qui, même s'il y a une coupure de courant, mon NAS va rester allumé, plusieurs heures. Et après, moi, je peux même carrément l'éteindre manuellement sans qu'il ait un stress pour abîmer les disques, en fait.
Ouais, mais c'est fait pour, quand même. Je veux dire, c'est...
Ouais, mais juste dans le doute, je préfère vraiment avoir cette sécurité-là et cette sérénité en plus, tu vois.
Ça vaut combien, ça? Parce que je serais intéressé, parce que c'est vrai que maintenant que je suis sur Mac Mini, moi, j'ai eu aussi une coupure ou deux, et comme tu me l'avais dit, c'est pas un portable, ça coupe direct.
C'est ça. Bah ouais. Et non, franchement, c'est pas si cher que ça. Moi, je l'ai pris, c'est une centaine de dollars, tu vois. Et c'est une multiprise, en fait, donc t'as plusieurs prises que tu peux avoir sur batterie. Donc, tu peux mettre, je ne sais pas moi, ta box internet, ton AS et tout ça. Et tu peux conserver du coup un peu même internet pendant quelques heures en fait.
Oh. C'est...
Mais après, si on parle des points un peu négatifs, ça fait du bruit. N'oubliez pas, ça fait du bruit. Honnêtement, ouais. Moi, je l'ai mis juste en dessous de ma télé. Et quand j'ai copié ma première semaine... copier ma première semaine, tous mes fichiers depuis les trucs et tout, et je le laissais toute la nuit copier, en fait, dans ton écran.
Ah ouais.
Et quand il écrit sur le disque dur, t'as l'impression qu'il est en train de sculpter un truc sur ton disque dur. Et ça faisait un peu de bruit. Même quand tu regardes un film, dans les moments un petit peu calmes du film, tu l'entends des fois, surtout s'il est sous la TV. Ça dépend où tu le places, en fait. Mais moi, ma box, elle est ici, donc c'est ici. Et puis, j'ai pas réussi encore à paramétrer le fait que tu puisses enlever les LED dessus, parce qu'ils éclairent vraiment beaucoup les LED, et vu qu'ils flashent comme ça tout le temps, j'ai pas réussi à le faire. Donc, j'ai mis pour l'instant du tape noir dessus. mais c'est sûr que c'est une petite consommation d'énergie à prévoir aussi dans le truc, parce qu'il est quand même connecté H24.
Ça va, c'est pas...
Mais ça va, c'est pas excessif. C'est non plus,
le NAS, pendant un an, c'est 5 minutes de ton fer à repasser ou 5 minutes de ton four.
Donc j'ai arrêté de repasser, en fait.
C'est bon.
Mais t'es satisfait, je veux dire. T'es...
Ah oui.
Parce que de ce que j'ai compris, avant, t'étais pas forcément pour cette solution-là. Mais depuis que t'as sauté le pas, t'as.
Ça, je trouvais ça compliqué. Je trouvais ça compliqué et moi, je voulais pas me casser la tête. Je voulais vraiment que ça soit facile et que, tu sais, j'ai pas à me mettre toutes les semaines dedans parce qu'il y a une mise à jour de sécurité à faire. Waouh, c'est un truc de ouf et tout machin. C'est là, il m'envoie une alerte. Ok, j'appuie dessus. Automatiquement, j'ai rien à faire. Franchement. Je ne voulais pas être en stress là-dessus et puis je voulais en même temps avoir accès à mes fichiers. Puis je savais que ce n'était pas non plus des fichiers hyper sensibles que j'allais mettre dedans. C'est au pire des cas, j'ai mes gros disques durs qui l'ont encore en backup. Au pire des cas. C'est juste qu'il faudra que je re-range tout, mais voilà.
Donc tu as zéro cloud aujourd'hui. Tout est sur ton NAS et...
Tout est sur mon NAS. J'ai arrêté tous les clouds, les trucs de merde là et puis voilà.
En fait, ce qui est un peu plus délicat pour les gens, je pense, c'est que ça fait beaucoup d'argent d'un seul coup à dépenser pour avoir la solution. Alors qu'avec le cloud, tu étales. Donc, il faut pouvoir se permettre de mettre cet argent directement. Mais là, bon, dans la thématique du podcast, où on va quand même s'adresser à souvent des photographes ou même des vidéastes, je pense que ça a carrément un intérêt d'avoir ce genre de système disponible, tu vois. Donc ouais, voilà.
Clairement, et pour ceux qui ne veulent pas forcément investir, parce que Thomas, tu le disais tout à l'heure, les disques ont coûté plus cher que le NAS.
Oui, c'est ça, exactement.
Donc, ceux qui ne veulent pas payer les 300 et quelques dollars et qu'ils ont une machine qui sont sur le point de jeter ou qu'ils n'utilisent pas, là, ils peuvent réutiliser ça. Tu installes un True NAS ou un Free NAS dessus, là, qui sont des solutions open source, une vidéo de 10 minutes, montre comment faire. Tu mets tes deux disques et puis voilà.
Et puis, tu parlais de 900 dollars. Alors déjà pour les gens en France en euros ça vous fera moins, vous inquiétez pas. Et aussi vous n'êtes pas obligé de partir sur 12 tera. Vous pouvez partir sur des
4, exact.
Sur des 4, des 8 tera, ça sera toujours moins cher que ça. Donc ça reste quand même une bonne alternative, je trouve, au cloud.
Et aussi juste bien choisir les disques durs. Peut-être Abdel, toi tu t'y connais un peu mieux. Tu sais, par rapport au numéro de série, enfin aux créations, tu sais, des disques durs, et par rapport à la couleur aussi.
La couleur.
Oui.
Oui, parce qu'elle est raide.
Parce que oui, voilà, t'as
parce que moi je suis daltonien, donc si tu me parles de couleur, tu m'as perdu.
Il y a différentes longévités dans les
couleurs. Il y a des gammes spéciales.
Oui.
Toutes les compagnies, c'est pas mal les mêmes, ils se ressemblent toutes. Moi, celle que je prends tout le temps, c'est les Red de toutes les compagnies, en fait.
Ouais. Toi, t'as pris la gamme Pro de... Mais il y a une autre gamme aussi, pour ceux qui sont intéressés. Il y a la gamme des disques qui vont sur les centres de données, sur les data centers. La gamme, par exemple, Exos, là, qui est la même marque que Thomas. Là.
Attends, t'as pris Western Digital ou t'as pris Seagate
Non, il a pris Seagate. Disque.
Ok.
Seagate.
C'est lui, il a pris des Seagate, Wolf.
Iron Wolf, je crois.
Ouais, Iron Wolf. Et puis, il y a une gamme au-dessus, celles qui vendent, qui ne sont pas forcément beaucoup plus chères. D'ailleurs, quand Thomas avait acheté ses disques durs, les Exos étaient moins chers. Enfin, c'était le même prix pour plus de storage. Et ceux-là, ils vont sur des centres de données. Donc, les disques sont faits pour durer plus longtemps. Mais comme Thomas l'a dit, vu que c'est des centres de données, ils font un peu plus de bruit que les disques que tu vas mettre chez toi. Mais leur durée de vie est estimée au moins 1 an et demi, 2 ans de plus que la gamme Ironwolf.
Et puis, en fait, quand vous choisissez votre disque dur, vous pouvez aussi choisir la couleur. Ça vous dit exactement, en fait, combien, ou ça dépend des marques aussi, à combien d'écritures de Tera vous avez par année, en fait, avec votre disque dur possible, avant que, potentiellement, il soit affecté par des lenteurs, etc.
Et c'est là où le logiciel est très, très important, parce que si tu as un logiciel qui va à chaque heure, il va faire la comparaison, puis il va lire tout le registre pour comparer ce qui a changé. C'est là où les logiciels, ça prend une certaine intelligence pour dire, OK, le changement, il y a eu juste sur ce secteur, je ne touche pas les autres secteurs et je copie juste. C'est important aussi de... Ouais. Et ça, si tu sors de Synology, si tu sors de QNAP ou les solutions open source les plus connues, t'as pas forcément cette garantie-là, donc tu vas peut-être user tes disques pour rien. Moi, les Western Digital que j'avais, la solution MyCloud, ça s'appelait. Malheureusement, c'était, je vais le dire honnêtement, c'était nul comme quand ils se mettaient à faire les copies. Tu l'entendais, puis ils n'arrêtaient pas, en fait. Et je me suis rendu compte qu'ils effaçaient les registres au complet, puis recommençaient à chaque fois. C'était pas ouf comme solution.
Un truc aussi cool, c'est, il me semble, Thomas, corrige-moi si je me trompe, mais qu'il y a une application Synology pour voir la santé de ton NAS, en fait. Si jamais les disques commencent à affaiblir ou qu'il y a des petits défauts, des choses comme ça, avant que ce soit trop tard, sur l'application ou même sur le NAS, dans leur interface, tu peux voir l'état de santé de tes disques. Ouais. Et donc, ça peut éviter des gros problèmes. Tu les changes avant que ce soit trop tard, ou tu refais un autre backup à un autre endroit pour éviter... Que de tout perdre, en fait. Après, ça peut arriver que d'un seul coup, boum, ça tombe, c'est fini, merci, au revoir. Mais parfois, il peut arriver qu'il y ait une toute petite dégradation qui arrive, il te prévient, et là, tu peux réagir avant que ce soit trop tard.
Donc, ça marche avec un système de notification, mais en haut à droite, en fait, de ton bureau, tu as tout le temps les deux graphiques de tes deux disques durs, bon, 4, 6 si vous en avez plus, qui te disent si c'est sain ou pas. Et tu as vraiment, comme on voit derrière moi ici, une espèce de une ondulation comme ça de données, en fait, qui te dit, en fait, OK, tu es en train de manger tant, etc. et tout, sur ce disque dur-là et tout. Il est très sain, il marche très bien, il n'y a pas de problème, etc. Diagnostic fait la dernière fois à telle heure, prochain diagnostic à telle heure. Et puis, en fait, tu vois tout ce qu'il fait, en fait, t'as le contrôle sur tout. Tu pourrais même relancer un diagnostic quand tu veux toi-même, voir s'il y a un problème ou pas sur ton disque dur. Et j'ai regardé un petit peu sur internet les autres. Après, plus ça se détériore, plus il va te le dire, en fait. Donc, c'est pas ça passe de sain à pas bon du tout. C'est vraiment, t'as le temps de le voir arriver, t'auras 1000 messages d'erreur dans ta boîte mail et sur ton truc. Donc, tu peux pas le louper, en fait.
Et avec une config RAID 1 et plus, c'est sûr que. Quand le disque va tomber en panne, t'achètes un autre, puis ça te permet de faire la copie sur le nouveau. Là. Donc,
c'est ça. T'as quand même bon, en fait, le podcast, c'était, l'objectif, c'était de faire acheter un NAS à Julien, c'est ça?
Non, franchement, vous m'avez convaincu. Sérieux, je pense que...
1000 piastres.
Je vais sérieusement y penser. Puis ça sera peut-être un projet 2024, ouais.
Bah, parfait. Non, mais après, en vrai, il n'y a pas d'obligation, mais c'est vrai que c'est aussi une tranquillité d'esprit quand tu gères beaucoup de fichiers.
Bah, c'est clair.
Tant que les forfaits basiques des services cloud peuvent suffire, les 1 tera, 2 tera, et que tu es large avec ça, ça peut être OK, tu vois. Mais dès que tu commences à gérer beaucoup, beaucoup de données, des fichiers vidéo, notamment avec toi, avec ta chaîne YouTube et tout ça, c'est vrai qu'à un moment donné, ça peut être intéressant de passer sur...
Ouais, Thomas me l'a bien vendu parce que j'ai toujours vu ça comme un truc un peu chiant et plate à faire. Et là, en fait, il m'a vendu un peu les features, tu vois, le côté pouvoir regarder des films de n'importe où, c'est ton propre Netflix, tu vois, ou des trucs comme ça. C'est des features que c'est cool parce que ça m'ajoute quelque chose en plus dans ma vie. Fait que c'est pas.
T'sais. Comme je t'avais dit, tu peux mettre en hors ligne certains fichiers, donc tu te les télécharges, en fait, et en gros, tu peux regarder ton film dans l'avion, quoi. Donc ouais, ça, non, c'est nice, ou en vacances, ou n'importe où, en fait, à partir du moment où tu as l'application.
C'est très cool, bon, quoi. Puis franchement, $900 pour tout ce que tu gagnes, clairement, tu le rentabilises, quoi, en un an et demi, et ça vaut la peine.
Mais encore une fois, t'es pas obligé de payer $900, hein. Tu peux prendre des disques, tu commences par des plus petits disques.
Ouais. Moi, je suis correct sur des 4, fait que je prendrais peut-être des 8 pour être safe, fait que c'est ça. Je pense que ce serait raisonnable.
Ouais. Et puis, il ne faut pas non plus voir le NAS comme soit le NAS, soit le cloud. Moi, je pense que ce sont deux usages complètement différents. Moi, sur mon cloud, je n'en vois pas de copie de mes vidéos qui sont lourdes.
Je pense que c'est le nom qui fait peur, en vrai.
Comment ?
Le nom NAS fait peur parce que, tu sais, serveur, NAS, les gens,
ils comprennent
pas trop, c'est les entreprises, machin, etc. Non, pensez juste à un disque dur qui va accéder à votre disque dur de partout. C'est juste ça. Oubliez tout le reste, c'est un disque dur.
Puis, je sais pas si t'as remarqué, ils mettent souvent l'emphase sur des termes comme centre multimédia, machin, plutôt que NAS, parce que c'est vrai, NAS, c'est un peu un mot qui veut rien dire pour tout le monde. Mais pour revenir sur le cloud, moi, le cloud, je vais mettre mes documents les plus importants, genre une copie de mes documents les plus importants, au cas où demain, il se passe quelque chose. Et j'ai fait comme un classement de priorité, pas de priorité, mais d'importance dans mes documents. Tout ce qui est film, machin, ça, c'est comme genre priorité. Si demain, ça disparaît, ça va me faire chier, mais c'est pas la fin du monde. Après, il y a les photos. Même dans les photos, tu peux mettre des dossiers qui sont plus importants. Ceux-là, tu peux envoyer une copie dans le cloud. Une copie, peut-être pas les fichiers RAW ou des fichiers qui sont lourds, juste la copie légère. Comme ça, ça ne te coûte pas super cher non plus ton cloud. Moi, iCloud, j'ai 2 terabytes. Tu peux imaginer que sur mes deux NAS, j'ai plus de 20 terabytes. Je ne pourrais pas envoyer ça demain dans le cloud. C'est sûr que ce n'est pas tout qui va dans le cloud. Donc,
Bon, parfait. Bah, écoutez, merci d'avoir partagé votre différentes façons d'archiver, sauvegarder, stocker vos données. On espère que ça vous a aidé. Si vous êtes photographe, vidéaste, bien, n'hésitez pas également à nous partager la façon dont vous travaillez. Si vous utilisez d'autres types d'appareils, que ce soit même les SanDisk, je suis curieux de savoir si dans les gens qui nous écoutent et qui sont restés jusqu'ici, évidemment, il y a des gens qui utilisent les SanDisk professionnels, là, les G-RED. Moi, c'est vraiment une possibilité pour le futur. Donc voilà, n'hésitez pas à partager tout ça. Si on a dit des bêtises, à préciser pour aider les gens au maximum. Et voilà, merci encore les gars d'avoir partagé tout ça.
Merci.
Pensez à vous abonner, partager, liker, tout ça. Et puis on se retrouve très vite dans votre poche.
Ciao tout le monde.
Allez, bye. Bye.